Il fut le plus grand mécène des lettres et des arts qu'aucun autre prince ne l'avait été avant lui. Machiavel.
Ans d'histoire. Souverain autocratique de Florence qu'il a gouverné pendant plus de 20 ans, Laurent le Magnifique a fait de la Toscane l'état le plus puissant d'Italie. Traité en égal par les papes et les souverains européens, il n'était ni un roi, ni même un de ces grands condottieri qui ont écumé l'Italie du Quattrocento, mais il était le plus célèbre représentant d'une famille de banquiers qui, à la fin du Moyen-Âge, ont mis leur fortune et leur puissance au service des arts et des lettres pour faire de Florence la capitale de l'humanisme et le creuset de ce qui allait s'appeler la Renaissance. La ville où les Médicis, à la fin du XVe siècle, ont rassemblé tout ce que l'Italie comptait de philosophes, de savants et d'artistes. La patrie de Botticelli, de Machiavel, de Gozzoli, du Ghirlandaio, de Pic de la Mirandole, de Brunelleschi, de Donatello, de Verrocchio et de Michel-Ange qui, avant de se mettre au service du pape, avait découvert son art dans la Florence des Médicis.
À Florence, où mon père vous a reconnu, vous êtes devenu un protégé des Médicis. Je n'oublie pas que mon père vous considérait comme son second fils.
Les artistes vont et viennent comme les papes, les Médicis demeurent.
Les princes et les tyrans ne devraient pas disposer de la vie des artistes.
Vous n'avez rien objecté quand mon père a disposé de la vôtre?
C'était différent, c'était Laurent le Magnifique, et c'était un artiste lui-même. D'ailleurs, il n'a pas disposé de ma vie. Il l'a inspiré. Voyez-vous, quand il m'a invité à venir vivre chez vous, vous rappelez-vous, dessiner à quoi ressemblait alors le monde? Du marbre vierge, prêt à prendre la forme qu'on voulait.
Jack Lang, bonjour.
Bonjour.
Alors, après avoir écrit une biographie de François Ier, vous restez dans la Renaissance avec un livre qui vient d'être publié chez Perrin sur le plus célèbre des Médicis, Laurent le Magnifique, un personnage qui avait, dites-vous, tellement fasciné François Mitterrand quand vous étiez son ministre de la Culture qu'il avait envisagé d'écrire une biographie de Laurent le Magnifique avant vous.
Oh oui, très longtemps et je crois que lui-même avait entrepris des recherches dans les bibliothèques de Florence. Et il était passionné par cette ville qu'il aimait beaucoup. Il venait très souvent à Florence. Et c'est vrai que le personnage de Laurent, le Quattrocento, tout cela l'intriguait, le passionnait. Et je dois dire que j'ai été moi-même un peu initié au mystère de Florence grâce à lui.
Pas pour rien qu'on le surnommait le Florentin.
Oui, mais alors là, justement, il y a un malentendu sur l'expression le Florentin, parce que quand on dit le Florentin, en français, ça veut dire l'homme des habiletés. Mmh. Et comme l'a dit un jour François Mitterrand lui-même, ce n'est pas très gentil à l'égard des Florentins que de donner cette coloration un peu péjorative. Les Florentins, au contraire, ont été les hommes de l'art, de l'invention, de la philosophie, de la beauté. Et simplement, on a cherché à désigner certaines méthodes de gouvernement qui n'étaient pas plus florentines que vénitiennes, napolitaines ou parisiennes.
Alors Jacques Lang, votre livre commence par la mort extraordinaire, mise en scène de Laurent le Magnifique. Il est mort en 1492, c'est-à-dire l'année même de la découverte de l'Amérique, dont on dit souvent qu'elle marque le début de la Renaissance. Comment est-ce qu'on peut dire de Laurent le Magnifique qu'il est un prince de la Renaissance alors qu'il est mort au moment où elle commençait?
Oui, ça c'est une idée française. L'idée que la Renaissance, ce serait le XVIe siècle. La France, en vérité, a été en retard par rapport à l'Italie. La Renaissance italienne, c'est principalement le Quattrocento, c'est-à-dire le XVe siècle. Et finalement, Laurent aura en quelque sorte parachevé cette fabuleuse aventure de la Renaissance italienne.
Alors à partir d'une ville qui est la sienne, qui est Florence, dans une Italie qui est divisée, il faut le rappeler, depuis la chute de l'Empire romain, il y a plusieurs principautés, plusieurs villes qui se partagent la puissance en Italie. Il y a Milan, il y a Venise, il y a Naples, il y a Rome, bien sûr la Rome du pape,
et Florence. Sans compter des républiques ou des états plus petits, mais tout aussi prestigieux, Mantoue, Urbino, Ferrare et quelques autres.
Très très divisé, avec donc Florence, qui a été une des plus importantes d'entre elles au Quattrocento, au XVe siècle, et qui était une république. Comment ça fonctionnait? C'est un peu comme Venise au fond. Comment fonctionnait ce système? C'était, je crois, la seigneurie qui était
à la tête du pouvoir. Il ne faut pas entendre république au sens contemporain. C'est république au sens, je dirais, de l'étymologie latine, c'est-à-dire la chose publique. La chose publique qui n'était pas très démocratique. Simplement, il y avait des organes assez complexes, des collèges, un gonfalonier de justice qui exerçait la magistrature.
Un peu le doge de Venise, l'équivalent du doge.
À la manière. D'ailleurs, et le pouvoir lui-même s'est transformé maintes et maintes fois. Et, disons-le, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, les Médicis n'ont jamais directement gouverné Florence. Ils l'ont fait par l'intermédiaire des conseils, des collèges et de la seigneurie, en s'arrangeant pour que leurs affidés soient nommés. Il y avait en permanence comme des coups d'État légaux, si vous voulez, à l'intérieur même du fonctionnement de la seigneurie.
Et un pouvoir disputé entre plusieurs familles. Les Médicis étaient une grande famille de banquiers, de commerçants, mais il y en avait d'autres qui d'ailleurs ont conspiré contre les Pazzi, par exemple.
Oui, les Strozzi et quelques autres. Effectivement, il y a eu des affrontements entre les grandes familles de banquiers, mais les Médicis étaient les plus puissants. C'est eux qui détenaient un immense réseau à travers l'Europe, un réseau de banques. Les Médicis étaient les banquiers du roi de France, du pape, de Charles le Téméraire, du duc de Milan, etc. C'était un immense empire financier. Et les Médicis considéraient que s'ils voulaient conserver cette prééminence financière, il fallait se rendre maître, directement ou indirectement, du pouvoir politique.
Alors la puissance et la fortune des Médicis ne datent pas de Laurent le Magnifique, c'est même plutôt la fin d'ailleurs, Laurent le Magnifique, qui va un peu ruiner Florence. Ça commence surtout avec le grand-père qui a joué un rôle considérable, Jack Lang, et qui était Côme de Médicis.
Oui, on l'appelle Côme l'Ancien. Ouais. C'était en quelque sorte le père de la dynastie, celui qui a d'abord commencer à limiter les pouvoirs des institutions florentines pour établir une sorte de tyrannie. Et c'est lui qui a donné la puissance financière à la famille et surtout qui a été l'homme d'un mécénat sans précédent. Et aussi l'homme qui a introduit l'humanisme, je dirais, néo-platonicien. Il a introduit en particulier un personnage fait donne à l'occasion d'un concile organisé sous son règne entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, pour essayer de tenir bon face aux Turcs. Non, il a été vraiment l'homme qui a ouvert la voie. Mais finalement, c'est Laurent qui, dans l'histoire, par la légende que lui-même a construite de son vivant, et que les ducs de Florence ensuite vont glorifier un peu plus, apparaît comme le personnage du Quattrocento.
Cela dit, quand même, déjà sous Côme, on a beaucoup construit. Il y a eu cette fameuse extraordinaire cathédrale de Florence, le Duomo.
Brunelleschi, c'est sous Côme.
Hein, Brunelleschi, donc l'auteur de ce dôme qui a été longtemps le plus grand dôme du monde à l'époque, au-dessus de la cathédrale. Vous me dites d'ailleurs, parce que Laurent était déjà né, son petit-fils était déjà né, qu'il a participé au concours pour la construction du dôme.
Non, pas pour le dôme. Non, pour le dôme, non, c'est il a participé à un concours pour le dessin de la façade.
Ah oui.
Il faut s'imaginer le dôme Notre-Dame de la Fleur au Quattrocento. Elle n'est pas achevée. Et donc, il s'agit de trouver un revêtement, une configuration pour la façade. Et Laurent a concouru en même temps que Botticelli, Verrocchio et quelques autres. D'ailleurs, ce concours aura été infructueux. C'est un peu plus tard que sera choisi le dessin et les revêtements de la cathédrale.
Botticelli, Verrocchio, Brunelleschi, effectivement, qui ont vécu à l'époque d'abord de Côme en compagnie de Laurent. À quoi correspondait ce besoin d'aider les artistes? Écoutez dans cet extrait de film le dialogue imaginé entre Raphaël et Michel-Ange.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est donc un artiste ici-bas, sinon un domestique, un laquais pour les riches et les puissants? Avant même de nous mettre à l'ouvrage, de rassasier nos appétits, il nous faut trouver un mécène, un riche homme d'affaires, ou un marchand, ou un prince, ou un pape. Nous devons nous prosterner, flatter, faire la révérence, pour pouvoir créer les œuvres que nous portons en nous, ou mourir. Nous sommes des catins qui colportent la beauté au seuil de la demeure des puissants.
Si j'en dois venir là, je ne serai pas un artiste.
Vous ne serez jamais qu'un artiste, c'est votre nature.
Jack Lang, à quoi correspondait le mécénat à l'époque des Médicis? Est-ce que c'était un caprice des princes ou est-ce que c'était un acte politique?
Mais c'était d'abord, je crois, une vraie passion pour la beauté, pour l'architecture, pour la peinture, pour la sculpture, pour les humanités aussi, la philosophie. Et puis, il y avait un arrière-plan politique. Tout à l'heure, je vous le disais, pour préserver leur puissance financière, il fallait se rendre maître du pouvoir politique. Et pour conserver le pouvoir politique, il fallait que la famille fasse de Florence la plus belle cité d'Europe.
La famille d'ailleurs qui se mettait en scène, vous citez, c'est le portrait le plus connu je crois de Laurent le Magnifique, même si c'est pas du tout, ça ne ressemble pas du tout à Laurent le Magnifique, c'est cette fresque des Trois Rois Mages qui a été peinte par Bozzoli dans lequel on voit un jeune Laurent justement qui avait 10 ans à l'époque à peine dans cette fresque. Laurent qui vivait en fait dans ce milieu d'artistes où il s'est formé politiquement et culturellement.
Oui, mais dès son enfance il a été immergé dans ce bain d'art et de culture. Tout petit, il a appris toutes les langues qu'il voulait apprendre ce temps-là. Quand il avait 11 ans, il traduisait en toscan Ovide. Il connaissait par cœur Dante qu'il récitait. Bref, grâce à sa mère en particulier, qui était extraordinairement raffinée, Laurent a été très tôt initié, comme devraient d'ailleurs l'être, à mon avis, tous les enfants aujourd'hui. Notamment en France.
Et il écrivait même des poèmes. Écoutez cette ballade, Le Triomphe de Bacchus, écrite donc par Laurent le Magnifique.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Laurent le Magnifique avec Jack Lang.
Et c'était Le Triomphe de Bacchus du 15e siècle, une ballade écrite par Laurent le Magnifique. En substance, je traduis, qu'elle est belle la jeunesse qui s'enfuit sans cesse, quiconque veut être gai le soit, et demain, de demain, rien n'est certain. C'était un homme qui aimait les plaisirs, Laurent le Magnifique, même adolescent, qui aimait sa jeunesse en fait, qui aimait une très belle jeunesse.
Ah oui, c'était un homme qui dévorait la vie à pleines dents. Et en même temps qui était lui-même un artiste. Tout à l'heure nous l'évoquions à propos du Duomo, mais il a été l'auteur de poèmes que les spécialistes considèrent comme tout à fait remarquables. Et en même temps c'était un homme qui savait être austère lorsque l'intérêt supérieur l'exigeait. C'est un homme courageux. Et là, on oublie parfois l'œuvre importante qu'il a accomplie pour établir la paix entre les cités italiennes. Et il était prêt à payer du prix de sa vie en se rendant dans l'antre d'un des ennemis de Florence, le royaume de Naples. Et c'était un homme assez fascinant par cette variété de comportements et d'attitudes.
Alors ça, c'est quand il est devenu homme d'État, le patron de Florence, Jack Lang, en 1469, en succédant à son père, auprès duquel déjà, d'ailleurs, il avait exercé des fonctions politiques. Et il lui succède donc en 1469. C'est drôle quand même, cette république où on se succède de père en fils, hein, c'est une monarchie.
Oui, parce qu'en réalité, je répète, ce n'est ni une monarchie d'ailleurs, ni une vraie république au sens contemporain. De fait, c'est cette famille qui a réussi par sa puissance, son organisation à se perpétuer tout au long du Quattrocento. D'ailleurs, vous le savez, la famille réapparaîtra au siècle suivant. Et là, ils gouverneront directement. Ce seront les ducs de Florence et la famille gouvernera directement.
Alors à l'époque, par coquetterie, fait semblant d'avoir hésité à succéder à son père. Il écrit dans ses mémoires « Je consentis à contre-cœur, mais je le fis afin de protéger nos amis et nos biens, car il est périlleux à Florence de posséder des richesses sans jouer aucun rôle dans son gouvernement. »
Il disait vrai. Et donc, tout à l'heure, comme je vous l'expliquais, si l'on voulait préserver la puissance financière, il fallait disposer du pouvoir politique. Et c'est pourquoi il y a eu parfois des affrontements très durs et très violents.
C'était terrible, oui.
Et en particulier lorsque certaines familles ont voulu faire disparaître les Médicis, et je pense notamment à la fameuse conjuration des Pazzi, qui en pleine église, en pleine cathédrale, pendant l'office, ont porté la main à Laurent et à Julien, son frère. Julien a été tué. Laurent, lui, a eu l'intelligence de s'échapper par la sacristie et échapper miraculeusement à l'assassinat. Inutile de vous dire qu'ensuite, la répression a été sanglante et définitive.
Ah oui, il fait pendre carrément un archevêque.
Oui, et puis la famille des Pazzi a disparu quasiment pendant 4 siècles.
Mais c'était une brute, hein, ce Laurent le Magnifique.
C'était la lutte à mort pour le pouvoir.
Et puis même, juste après, c'est une véritable dictature qui se met en place. Hein. Ce prince de la Renaissance, c'était un despote éclairé,
c'était
disons,
un despote,
avant la dette.
Un despote éclairé, on peut dire plus qu'une dictature, parce que c'est encore une expression un peu trop contemporaine. C'est un pouvoir personnel qui l'exerçait directement ou indirectement. En même temps, c'est un homme qui, n'avait pas besoin d'être protégé. Il se promenait dans Florence librement. Il était aimé, il faut le dire, réellement, du peuple florentin. Il y était né, il y avait vécu, il y avait connu toutes sortes d'épisodes. Il ne régnait pas par une police au sens d'une dictature contemporaine. Il régnait par, naturellement, les lois qu'il faisait dicter, par l'argent, naturellement.
Alors, il contrôlait tout.
Par l'influence.
Tous les pouvoirs, toutes les institutions florentines étaient entre ses mains parce qu'il y mettait des gens
à lui.
Hein. Alors tout cela n'apparaît pas dans les portraits qu'ont fait de lui après sa mort quelques écrivains italiens célèbres, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, à Florence, au XVIe siècle, hein, bien après, s'est forgée peu à peu une véritable légende médicéenne autour du souvenir glorieux de Laurent le Magnifique. Machiavel, par exemple, l'auteur fameux du Prince, admire bien sûr d'abord en lui l'homme politique. « Laurent, écrit Machiavel, fut au plus haut point aimé de la chance et de Dieu. Toutes ses entreprises connurent le succès et celles de ses ennemis échouèrent. » Sa réputation auprès des princes d'Italie et des pays lointains grandissait de jour en jour par l'effet de sa prudence. Laurent était dans la discussion, éloquent et précis, sage dans la décision, rapide et courageux dans l'exécution. Ses immenses qualités n'étaient ternies par aucun vice. Oh, à ce tableau parfait, Machiavel ajoute quand même ce qu'il juge être des défauts, mais qui à nous finalement rendent Laurent peut-être plutôt sympathique. « Il était étonnamment porté aux choses de l'amour, écrit Machiavel. Il se complaisait à fréquenter des hommes facétieux et moqueurs et à se distraire à des jeux puérils plus qu'il n'était convenable pour un homme de son importance. Ainsi, on le vit souvent se mêler au divertissement de ses enfants, garçons et filles. » Alors Machiavel fait allusion, je pense ici, notamment aux copains d'enfance qu'il avait, hein, et ses nombreuses virées et fêtes dans les rues de Florence et dans les palais de Florence. Et Machiavel conclut « On avait l'impression qu'il existait en lui deux personnalités distinctes qui s'unissaient dans une impossible union. » Admiration aussi du florentin historien Guicciardini qui, 40 ans après la mort de Laurent le Magnifique, continue de voir en lui un modèle. Par sa renommée, sa prudence, son génie extrêmement habile, écrit Guicciardini, Laurent apporta à sa patrie les richesses, les biens et les ornements qui fleurissent dans la société lorsque règne une longue paix. Guicciardini confirme aussi le défaut déploré par Machiavel. Laurent était voluptueux, soumis tout entier au pouvoir de Vénus, ce qui affaiblit son corps au point de le faire mourir, pour ainsi dire, en sa jeunesse. Donc c'est un grand homme politique, un grand amoureux, aimant s'amuser. Laurent est aussi, on le sait, un grand ami des savants et des artistes. C'est d'ailleurs ainsi que le peintre Vasari l'a représenté sur les murs du Palazzo Vecchio, le grand palais de Florence, dans une véritable apothéose, avec ce commentaire... Regardez cette fresque. Laurent est assis avec un livre ouvert au milieu de tant de lettrés qui ont aussi un livre à la main, des mappemondes, des compas. Et Vasari ajoute, je ne crois pas que jamais il y eut en cette ville plus grande abondance de beaux esprits, en lettres grecques, latines ou langues vulgaires, en sculpture, peinture, architecture, menuiserie, ferronnerie, art du bronze, et que personne de cette famille n'a été plus à la hauteur, les ait mieux honorés et récompensés que Laurent le Magnifique.
C'est extraordinaire cette apologie de
oui,
Laurent le Magnifique.
Cette précision que Machiavel reprochait néanmoins aux Médicis en général et à Laurent en particulier d'avoir établi une tyrannie, d'avoir donc porté atteinte aux lois et aux règles de la République.
Et pourtant, il se
et
croit
que quand vous citez Giacchini, qu'on nomme en les Français appellent Guichardin, manière de vouloir franciser tous les noms italiens, Guicciardini décrit, c'est tout ce que vous dites est tout à fait juste, évidemment, mais décrit cette période de Laurent comme une sorte d'avant-guerre heureuse. Parce que c'est vrai qu'il a établi la paix c'est pendant la quelques paix, années, hein. avant que ne déferlent les troupes françaises à la fin du siècle, et que l'Italie connaisse à nouveau des soubresauts. Et finalement... C'est un ouvrage d'ailleurs passionnant, l'ouvrage de Guicciardin, Histoire d'Italie. C'est certainement, probablement, l'ouvrage d'un des premiers grands historiens contemporains.
À la veille de cette guerre, de cette invasion française, Jack Lang, c'est déjà quand même, Florence est déjà sur le déclin. C'est assez triste la fin du règne, entre guillemets, de Florence. Vous dites même que c'est un personnage un peu désabusé à la fin de sa vie.
C'est très mélangé, parce qu'en même temps, à ce moment-là, il a comme une sorte d'utopie nouvelle. Son idée était de reconstruire Florence. Il était inspiré par un certain nombre d'architectes ou de théoriciens de l'architecture. Il voulait, en dégageant des terrains nouveaux, mettre Florence conforme à une sorte de vision mathématique de l'architecture.
Bon, on dit aussi... Une cité idéale.
Une cité idéale. Et on dit aussi qu'il s'est fait construire une sorte de chapelle Sixtine dans la campagne toscane, à laquelle auraient participé tous les grands artistes de l'époque, Botticelli, Michel-Ange et quelques autres. Le témoignage n'en est donné que par un délégué du duc de Milan et cette construction éphémère a disparu.
Alors, cela dit, à la fin de son règne, je répète toujours entre guillemets, Florence quand même a été un peu ruinée, ça tout le monde l'a remarqué, ses dépenses somptueuses ont ruiné Florence, et puis à la fin aussi, la plupart des grands artistes italiens quittent Florence ou décident de ne pas y venir, et parmi eux le sculpteur Michel-Ange, protégé de Laurent le Magnifique, et qui va plus tard travailler pour le pape Jules II, dont il va peindre le plafond de la Sixtine.
Mais très saint père, je suis un sculpteur et non un peintre.
Buonarroti, cette nouvelle modestie devient chez vous une véritable obsession. N'avez-vous pas étudié l'art de peindre à fresque avec le grand Ghirlandaio?
Si, mais...
N'avez-vous pas peint une sainte famille pour un obscur banquier de Florence?
Ce n'était qu'une diversion,
votre fresque n'a pas été jugée supérieure à la fresque peinte par Léonard de Vinci?
Florence est ma ville, votre sainteté,
et moi je suis votre pontife, Buonarroti. Me refuseriez-vous ce que vous avez accordé au banquier et politicien de Florence? Où se peut-il que vous ayez peur? Doutez-vous de vos capacités de mener à bien une telle tâche?
Alors, Buonarroti, il faut le rappeler, c'était Michel-Ange, c'était le nom de Michel-Ange, Jack Lang, qui a fini par travailler pour le pape, Jules II, mais qui se considérait comme florentin, comme la plupart des artistes du début du XVIe siècle.
Il y est revenu ensuite à Florence, Michel-Ange. Oui, non, mais d'une certaine manière, voyons les choses d'une façon, je dirais, positive. Le fait que des artistes florentins soient allés travailler ailleurs participait aussi du prestige de la ville. Bon, Léonard de Vinci, vous le savez, n'est pas resté non plus à Florence. Il est allé travailler pour le duc de Milan. Et puis un jour, François Ier l'a embarqué, si j'ose dire, en France et l'a accueilli en Touraine.
Mais pour cela dit, Florence, à ce moment-là, commence à décliner, elle ne sera plus jamais ce qu'elle était, même quand elle deviendra ensuite un duché de Toscane, où on retrouvera d'ailleurs des Médicis, qui ont laissé des traces extraordinaires en Europe. Après la mort de Laurent, c'est son fils qui prend le pouvoir, puis ce sera Savonarole, on n'en a pas parlé, qui critiquait beaucoup, lui aussi, les fastes de la Florence de Laurent. Mais il a été l'oncle d'un pape, Laurent de Médicis. Il a été l'arrière-arrière-grand-père de trois rois de France, puisque c'était son arrière-petit-fils, Catherine de Médicis.
Oui, Catherine de Médicis, sur laquelle il faudrait un jour réécrire l'histoire. Elle a été, en particulier grâce ou à cause d'Alexandre Dumas, caricaturée. Elle a été un personnage extraordinaire qui a dominé finalement le XVIe siècle français. Et comme vous dites justement, elle a été l'épouse d'Henri II et la mère de trois rois. Je crois sans compter qu'elle a elle-même gouverné directement.
Je crois que ce livre, Jack Lang, vous l'avez écrit notamment pour inciter le gouvernement italien à restaurer un peu les villas médicéennes de Florence.
Absolument. C'est une chose qui est difficile à comprendre, que plusieurs des villas qui ont appartenu aux Médicis, et spécialement à Laurent, soient dans un état de décrépitude ou d'abandon. Et je pense notamment à une des villas historiques, la Villa Careggi, qui se trouve à Florence, aujourd'hui occupée par un hospice. Et nous sommes allés avec quelques amis à Florence aussi un mois, et le maire de Florence a bien voulu soutenir un appel international que nous avons lancé pour tenter de restaurer cette Villa Careggi, qui a été le siège de l'Académie platonicienne, qui a été le lieu où est mort Côme, où est mort Laurent, qui était vraiment le haut lieu du Quattrocento.
Merci Jacques Lang, j'espère que vous serez entendu, j'espère aussi que vous serez lu donc avec cette biographie de Laurent le Magnifique, qui est disponible chez Perrin. À lire également, puisqu'on vient d'évoquer Florence et l'Italie de la Renaissance, deux livres magnifiquement illustrés, Palais de Florence et de Toscane, publiés aux éditions Mingès, et puis Michel-Ange et la Chapelle Sixtine, édité par la Renaissance du Livre. Vous avez pu entendre des extraits de L'Extase et l'Agonie de Carol Reed, un film disponible chez RCV, ainsi que des chants de carnaval tirés du disque Laurent le Magnifique, édité par Ovidis Astré. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 10 33, 68 10 33, pardon, 34 centimes d'euros la minute. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Pascal Baldassari et Émilie Clouet, Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, la revue de texte est de Stéphanie Duncan, la réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.